Europe Soir,
le 18-20.
Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir avec le journal évidemment dans quelques secondes. 19h10, la carte blanche de la philosophe Julia de Funès. La crise d'autorité aujourd'hui en France est inédite, nous dira-t-elle. 19h20, le grand débat du Club des Idées. Comment protéger les femmes après ce nouveau féminicide qui a choqué la France? Une femme de 31 ans, brûlée vive. Justice, police, en fait-on assez pour les protéger? Quel est aussi le ressort psychologique de cette emprise des violences conjugales? On en parlera longuement jusqu'à 20h avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Ça fait du bien de savoir que ça commence à être étendu à tout le monde. Je vais pouvoir assez facilement accéder à peut-être une dose qui, au lieu d'être perdue, sera disponible pour nous.
Sacré coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. Elle sera ouverte à tous, sans limite d'âge, à partir du 12 mai, du jour pour le lendemain, à condition qu'il reste des doses.
Faut-il lever les brevets sur les vaccins? Emmanuel Macron y est dit favorable. Washington et Moscou aussi. On verra que l'Europe est plus frileuse, elle.
L'homme qui a tué un policier hier soir à Avignon, toujours activement recherché, son complice également, il a tiré à deux reprises.
Oui, Marine Le Pen réagit à ce drame. Je serai, dit-elle, la présidente qui incarne le retour de l'autorité de l'État.
À Mérignac, l'enquête après la mort d'une jeune femme brûlée vive par son ex-compagnon confirme des dysfonctionnements. L'homme n'aurait jamais dû pouvoir s'approcher d'elle. Et puis Didier François viendra nous expliquer la raison de la colère des pêcheurs français. Londres ne respecte pas les accords négociés avant le Brexit.
La météo avec Anissa Haddadi, le soleil revient timidement.
Oui, timidement, Julien. C'est bien d'insister là-dessus parce que nous aurons des éclaircies sur la moitié nord. Mais dans le sud, le temps reste encore couvert avec de la pluie demain matin. Les températures, ça sera l'inverse. Il fera plus froid au nord qu'au sud.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Encore un coup d'accélérateur donc dans la campagne de vaccination. Ça va notamment aller plus vite pour les plus de 50 ans. Ils pourront se faire vacciner dès lundi et prendre rendez-vous dès demain.
Emmanuel Macron annonce également la vaccination pour tous dès mercredi prochain en fonction des doses disponibles.
En clair, tous ceux qui voudront se faire vacciner à partir du 12 mai pourront le faire en s'inscrivant sur Doctolib par exemple, à condition qu'il reste bien sûr des rendez-vous. Ça se fera la veille pour le lendemain. Et pour ces Parisiens que vous avez rencontrés, Diane Berger, eh bien c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Oui, c'est le cas par exemple de Claire, 25 ans, tout sourire sous son masque quand elle apprend la nouvelle.
Ça fait du bien de savoir que ça commence à être étendu à tout le monde. Je vais pouvoir assez facilement accéder à peut-être une dose qui, au lieu d'être perdue, sera disponible pour nous.
Et comme ça, retrouver une vie sociale, des loisirs, sans risque, c'est aussi ce que souhaite Patrick. À 44 ans, il est soulagé par cet élargissement des règles.
C'est tout simplement le seul moyen de s'en sortir. Ça fait des mois et des mois que la vie s'est quelque peu arrêtée. On n'en peut plus mentalement, moralement. Donc on a vraiment hâte de pouvoir revivre tout simplement.
Mais cette nouvelle règle amuse beaucoup Leslie, la trentaine. En effet, des centres vaccinaient déjà des personnes jeunes et en bonne santé. La preuve, elle-même a reçu sa première injection.
Ça aurait dû être fait en fait dès le départ parce que perdre des doses en fin de journée ou autre, c'est purement un scandale. Mais enfin, réjouissons-nous parce que du coup, je pense que tout le monde sera un peu plus serein à l'approche de l'été.
Ce n'est pas aussi évident pour Romain, rencontré quelques mètres plus loin. Ses parents, qui ont quasiment 60 ans, n'ont toujours pas trouvé de dose et ils risquent de galérer encore plus, estime l'étudiant, avec tous ces jeunes qui vont prendre les derniers créneaux.
Merci beaucoup Diane Berger, auprès donc de ces Français qui vont donc bientôt pouvoir se faire vacciner sans limite d'âge et sans justificatif médical. Notez que certains mineurs âgés de 16 et 17 ans qui souffrent de pathologies graves peuvent également désormais se faire vacciner.
Et maintenant cette question, les vaccins anti-Covid vont-ils devenir un bien public mondial? La circonstance extraordinaire, mesure extraordinaire. Washington et une grande partie d'ailleurs du monde proposent la levée des brevets sur ces vaccins.
Oui, à l'heure où les pays pauvres manquent cruellement des précieuses doses, on pense notamment à l'Inde. Alors c'est loin d'être fait et si c'était le cas, ce serait historique. Pourtant Isabelle Horry, à Bruxelles, eh bien, on n'est pas très enthousiaste.
Non, parce que la Commission européenne estime que la levée des brevets, ce n'est pas du tout la solution au problème du moment. Le problème en ce moment, c'est le manque de capacité de production, martèle Bruxelles. Le manque d'usines et le manque d'hommes et de femmes compétentes pour les faire tourner. Selon Thierry Breton, pour monter une usine, il faut quasiment 2 ans. Donc distribuer la recette du vaccin, ça ne suffit pas si on n'a pas les ustensiles et des cuisiniers aussi. La présidente de la Commission européenne a donc fait le service minimum face à la proposition.
L'Union est prête à discuter de toutes les propositions qui permettent de traiter la crise de façon efficace et pragmatique. Mais dans un premier temps, nous appelons tous les pays qui produisent des vaccins à autoriser les exportations et à éviter les mesures qui perturbent les chaînes de production.
Cet appel à autoriser les exportations, c'est un peu le coup de pied de l'âne de l'Europe aux États-Unis. Car aujourd'hui, les Européens, eux, exportent des vaccins vers le reste du monde. Déjà plus de 200 millions de doses, alors que les Américains ont gardé leur sérum en priorité pour leur population. Ils ont même retenu certains composants sur leur sol, alors que l'Inde en avait besoin.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Coup de tonnerre chez les Républicains, le maire de Nice quitte son parti.
Et ce proche de Renaud Muselier veut travailler à la création d'une nouvelle formation pour rassembler la droite et le centre. Décision qui fait suite au psychodrame en région PACA après l'annonce d'un rapprochement avec La République En Marche. Christian Estrosi dénonce la dérive d'une faction qui semble avoir pris en otage la direction du parti. Il est le deuxième en 24 heures à quitter LR après le départ du maire de Toulon, Hubert Falco.
L'enquête sur la mort à présent d'un policier hier soir à Avignon, la qualification de meurtre est retenue.
Le policier a été victime de deux tirs au thorax et à l'abdomen lors d'un contrôle sur un point de deal. Il avait son brassard de policier à la main au moment des faits. Le tireur est toujours en fuite. Une cliente qui venait chercher de la drogue a été interpellée. Elle est interrogée.
On n'en sait pas davantage à ce stade de l'enquête. Ce qui est sûr, c'est que ce drame fait l'objet d'une récupération politique. Marine Le Pen, notamment, s'est engouffrée dans la brèche.
Je pense que la restauration de l'autorité de l'État est définitivement un des éléments absolument essentiels du projet que je serai amené à porter. Il faut que le prochain président de la République incarne cette autorité et je serai la présidente qui incarne le retour et la restauration de l'autorité de l'État face à un président qui n'a eu de cesse que de se complaire dans une forme de laxisme, de désordre dont l'ensemble des Français sont victimes et nos forces de l'ordre victime au premier chef. Avec Emmanuel Macron, il faut bien l'admettre aujourd'hui, il n'y a plus un seul endroit en France où on est en sécurité.
La patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, tout à l'heure en conférence de presse.
À Mérignac, en Gironde, le drame aurait-il pu être évité? C'est la question que tout le monde se pose, bien sûr, au lendemain de la mort de Shainez, cette mère de famille brûlée vive par son ex-compagnon.
Oui, les premières conclusions de l'autopsie confirment que la jeune femme était en vie quand elle a été aspergée d'essence et immolée.
Son ex-compagnon avait un lourd passif. Déjà condamné, il était convaincu que la jeune femme avait un amant et voulait la punir. Et Marion Dubreuil, la procureure de la République de Bordeaux, a bien confirmé cet après-midi plusieurs dysfonctionnements dans le suivi de ce récidiviste.
Oui, alors qu'il avait interdiction d'approcher son ex-conjointe, le suspect l'avait agressée le 15 mars dernier dans une supérette près de chez elle. Terrorisée, elle avait immédiatement déposé plainte contre lui. Une enquête avait bien été ouverte, mais le policier n'avait pas retrouvé le suspect à l'adresse indiquée à sa sortie de détention. Premier dysfonctionnement, alors qu'il était donc recherché par la police, le suspect a honoré deux rendez-vous avec son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, comme nous l'a expliqué la procureure de Bordeaux, Frédéric Porterie.
Il s'est présenté aux convocations et a justifié du respect des obligations de travail et de soins. En l'état, je l'indique, et je le précise, de ses seules déclarations, il a reconnu être entré en contact à plusieurs reprises avec la victime, et ce, en totale contradiction avec les interdictions qui lui avaient été notifiées le 25 juin 2020.
Deuxième défaillance, vous l'avez entendu, le suspect lui-même avait confié à son conseiller pénitentiaire qu'il avait enfreint une mesure de son sursis probatoire. C'est normalement suffisant pour le renvoyer en prison. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Est-ce qu'il s'agit d'une décision prise en accord avec le juge d'application des peines? C'est ce que les deux enquêtes administratives diligentées par le gouvernement devront déterminer.
Merci beaucoup Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Et on vous retrouvera tout à l'heure à partir de 19h15, Marion Dubreuil. Dans le grand débat du Club des idées avec nos invités pour évoquer cette dramatique question des féminicides. Plus d'une cinquantaine de chalutiers français se sont rassemblés aujourd'hui devant l'entrée du port de Saint-Hélier. C'est la capitale de l'île de Jersey pour protester contre les restrictions imposées par la Grande-Bretagne à leur droit de pêcher dans les eaux britanniques.
On les a entendus tout à l'heure dans le journal de 18h. Alors ils sont rentrés au port ce soir. On en parle avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
À l'évidence, Didier, les accords négociés avant le Brexit ne sont pas respectés par Londres.
Oui, c'est bien le problème d'ailleurs, parce que la publication des licences autorisant la pêche dans les îles anglo-normandes ont mis le feu aux poudres, puisque sur les 344 bateaux français qui étaient éligibles et qui ont déposé une demande, seuls 41 ont obtenu satisfaction. Et encore, avec de nouvelles restrictions tout à fait draconiennes, certains ne pouvant par exemple pêcher que quelques jours par an, autant dire une misère hein, quand on sait qu'ils ramassent autour de Jersey et Guernesey 70% de leurs coquillages et de leurs fruits de mer. Mais surtout, de telles limitations sont en totale contradiction avec les agréments négociés entre l'Europe et la Grande-Bretagne avant la ratification du Brexit. Ce n'est pas très élégant, mais en plus, le gouvernement britannique se montre particulièrement le retour lorsqu'il explique que ce blocage n'est absolument pas de son fait, que c'est une décision locale du Conseil régional des îles anglo-normandes qui en a tout à fait le droit puisqu'il bénéficie d'une large autonomie à l'égard de la couronne. Et donc, à ce titre, Londres pense qu'elle ne peut rien faire. C'est évidemment une attitude parfaitement inacceptable pour les pêcheurs de la Manche, pour la France et pour l'Europe.
Et quelle peut donc être leur réaction ?
Alors les pêcheurs, bien on le voit, ils organisent une mobilisation qui a commencé aujourd'hui par cette manifestation maritime et qui pourrait rapidement se durcir avec le blocage de toutes les importations britanniques dans les ports français qui restent les principaux points d'accès du Royaume-Uni au continent européen. De son côté aussi, le gouvernement français a rappelé au gouvernement britannique l'importance du respect de ses engagements. Et d'ailleurs, il n'hésite plus à menacer de rétorsion. Deux mesures sont envisagées, dont la première serait de suspendre la livraison d'électricité à l'île de Jersey. Je ne pense pas que ça ira jusque-là. La seconde, en revanche, ça serait d'opposer un veto aux demandes d'agrément des banques londoniennes qui veulent continuer à proposer des services financiers sur le marché européen. Elles doivent renouveler cette autorisation avant la fin de l'année. Alors là, on sera œil pour œil, dent pour dent, deux leviers assez puissants qui devraient aider à ramener le Premier ministre Joe Boris Johnson à une attitude un petit peu plus raisonnable.
Bien, merci Didier. L'œil de Didier François tous les soirs dans le journal de 19h.
Et puis Thomas Pesquet nous prépare, paraît-il, une petite surprise.
Ah,
eh oui, on sait qu'il est un excellent photographe. Eh bien, il a prévu de jouer au DJ cette fois. Il devrait dévoiler en avant-première dans les prochaines heures le nouveau titre, le nouveau single du groupe britannique Coldplay. C'est ce que laisse entendre en tout cas une série de messages échangés sur Twitter entre l'astronaute et le groupe. Nous avons reçu votre signal, communication extraterrestre établie. Alors ce titre, on ne l'a pas encore forcément, mais il s'appellera Higher Power et les intéressés prédisent que ce sera la bande-son de l'été. En attendant de le découvrir, on se fait un petit plaisir.
On s'éclate dans l'espace.
C'est ça, on c'est s'ambiance
place
sur
to be. Moi
Coldplay.
Aussi, je veux aller dans l'ISS. Thomas Pesquet, Coldplay.
Et ça, c'était Clocks de Coldplay.
Évidemment. Merci Isabelle Millet, c'était votre journal. On se retrouve demain à 18h. C'est vous qui serez comme chaque vendredi aux manettes d'Europe Soir. La météo, elle aime aussi Coldplay, mais pas que.
Ah, j'adore.
Anissa Haddadi.
Et Thomas Pesquet.
Encore un peu de patience. Et Thomas Pesquet, encore un peu de patience avant un week-end estival.
Oui, nous allons avoir un week-end, c'est vrai, chaud, en particulier dimanche. On va avoir un vrai coup de chaleur. Alors, ça sera éphémère. Mais on va avoir sur certaines régions une augmentation de 10 degrés hein, des températures. En attendant, demain, c'est une journée de transition. Nous aurons encore quelques pluies entre la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes, entre Bordeaux et Grenoble. En passant par le Massif central, il va pleuvoir demain matin. Sur les Alpes, attention, nous avons un risque d'avalanche et toujours de la neige à partir de 1400 mètres d'altitude. Demain matin, dans des pays de la Loire, en Bourgogne, sur les Ardennes, il y a quelques régions comme ça qui seront concernées par des brouillards matinaux. Donc soyez prudents. Et dans l'après-midi, au nord de la Loire, là, nous aurons de belles éclaircies. Finalement, c'est sur la moitié nord qui fera le plus beau demain. Dans le sud, le ciel reste encore couvert. Oui, c'est vrai, une fois n'est pas coutume. Alors, en revanche, sur les températures, on garde les bonnes habitudes. Il fera plus frais au nord qu'au sud, avec 0 à 17 degrés demain matin, 0 à Charleville-Mézières et 17 à Nice. L'amplitude est assez impressionnante. Et 11 à 26 degrés de après-midi. 11 à Boulogne-sur-Mer, 16 à Paris et 26 à Nice.
Bien, c'est noté. Merci Anissa.
Bonne
à demain,
soirée.
18h. 19h12, vous restez évidemment avec nous. Dans quelques secondes, le débat du Club des Idées, on parlera des réponses qu'on peut apporter pour mieux protéger les femmes à des violences conjugales. D'abord, la carte blanche, signée ce soir Juliette Funès.
La Caisse d'épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Oui, c'est la philosophe Juliette Funès qui est avec nous ce soir. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien.
Ravi de vous retrouver. Alors, c'est vrai que ces violences qui traversent la société vous ont inspiré votre carte blanche ce soir. Deux policiers assassinés en moins de 15 jours. Ce sont les symptômes, dites-vous, d'une nation très affaiblie, d'une crise en somme, de l'autorité inédite.
Oui, inédite car plus aucune forme d'autorité ne semble aujourd'hui respectée dans notre pays. Vous savez, c'est Max Weber, un sociologue allemand du XXe siècle, qui distingue trois formes d'autorité. Il nous dit, en gros, il y a trois façons de dominer.
Oui.
Soit par la tradition, soit par le charisme, soit par la légalité. Et on voit que le pouvoir de la tradition, c'est fini ou presque fini. On voit chaque jour que la cancel culture ne cesse de vouloir l'abolir en modifiant ou en censurant des œuvres passées ou des personnages historiques. On a eu un exemple hier au sujet de la célébration ou non légitime de Napoléon. L'autorité légale, c'est fini aussi. Elle ne suffit plus à faire respecter l'ordre. On l'a vu hier encore tragiquement avec l'assassinat d'un policier. La peur du légal n'intimide plus les délinquants, sachant que les peines sont souvent remises et revues à la baisse. Les policiers demandent d'ailleurs des actes fort à sujet à rétablir les peines planchers, la réclusion à perpétuité lorsqu'on s'attaque à des forces de l'ordre. Reste la domination charismatique, mais là encore, on voit à droite comme à gauche qu'aucun candidat ne fait franchement l'unanimité, sinon la différence par sa personnalité.
Alors, vous ne faites pas de politique habituellement, mais quand même, vous avez un avis sur la question. Juliette Funès, il n'y a aucune autorité, plus aucune autorité, vers quelle autorité allons-nous nous orienter en 2022 ?
Alors, ce n'est pas une opinion, c'est une des raisons philosophiques, enfin j'essaye. Mais vers celle qui aura, à mon avis, la plus grande intelligence des circonstances, la plus fine intelligence des circonstances. Oui. Or, le temps est à l'urgence sécuritaire et c'est ce sur quoi joue et parie le Rassemblement National. Il suffit de lire leur slogan ou d'écouter Marine Le Pen cet après-midi encore, qui disait « Je serai la candidate de la restauration de l'autorité de l'État, je n'aurai pas la main qui tremble ». L'affiche, vous savez, de campagne de M. Bardella est très claire, hein, le choix de la sécurité. Donc la tactique du Rassemblement National est ici double, c'est celle du poisson globe, vous savez, du poisson ballon, et celle de Machiavel réuni. Le poisson globe, c'est celui qui se gonfle d'eau quand il se sent en vue. Chez les humains, ça équivaut à prendre l'ampleur d'un emblème, la valeur d'un symbole, à se gonfler en hyperbole. En gros, en votant pour moi, vous votez pour la sécurité. En votant pour moi, vous votez pour l'autorité retrouvée. Quant à Machiavel, il nous dit bien, je cite, puisque vous aimez les citations, Julien, qu'un prince réussit ou ne réussit pas à prendre le pouvoir selon que sa conduite se trouve ou ne se trouve pas conforme au temps, aux circonstances. Le temps étant plus que jamais celui de l'urgence sécuritaire, le parti qui veut gouverner, qui veut gagner, sera celui qui s'emparera le mieux de cet impératif. Aujourd'hui, c'est clairement le Rassemblement National qui mise sur ce thème au point d'en faire sa raison d'être. Mais la sécurité d'un pays me semble un enjeu trop régalien, trop républicain, pour qu'un seul parti se l'attribue et se l'approprie.
Mais Amy Balavoine dans la tête, ça y est.
Ah, c'est vrai ? Ah, je ne pensais pas. Ah oui, c'est acrobatique, mais vous allez me la mettre
j'ai
aussi.
J'ai pensé à ça, je ne sais pas pourquoi. Merci en tout
merci
cas
à vous.
Pour cette approche philosophique de ce moment d'autorité qu'on traverse aujourd'hui en France. Merci Juliette Funès.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h18, on se retrouve évidemment pour le Club des idées avec une petite rectification d'apport. Sa raison d'être, c'est évidemment Pascal Obispo et non pas Balavoine, comme je l'ai dit par erreur il y a quelques instants. Voilà, rectification faite, parenthèse fermée. Le Club des idées, donc consacré ce soir à cette grande question. En fait-on assez contre les féminicides ? Le débat ressurgit après l'abominable meurtre de cette femme, 31 ans, mère de 3 enfants, blessée par arme à feu, brûlée vive par son mari dont elle était séparée. L'homme était déjà connu de la justice pour des faits de violence conjugale. Il venait d'ailleurs de sortir de prison. Alors, comment un tel drame est-il encore possible ? La justice et la police en fait-elle assez ? Et comment nos voisins européens aussi luttent-ils contre ces violences insupportables faites aux femmes ? On en parle ce soir avec nos invités. Yael Mellul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ex-avocate, spécialiste de la question et auteur de « Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé » aux éditions Michel Lafon. On en parle également avec Anne-Sophie Vallac, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Merci de votre présence. On en parle avec Françoise Brié. Bonsoir. Vous êtes directrice de la Fédération nationale Solidarité des femmes. Merci à vous également d'être avec nous pour ce débat important. Et avec Marion Dubreuil, donc, qui nous a retrouvés, journaliste au service police-justice d'Europe 1 et spécialiste des violences faites aux femmes. Alors, d'abord, cette affaire qui a ému la France, ça s'est passé il y a quelques jours, le 4 mai. En pleine rue, à Mérignac, en Gironde, la procureure de la République de Bordeaux a d'ailleurs donné de nouvelles précisions en fin de journée lors d'une conférence de presse.
Vers 18h, alors qu'elle arrivait à son niveau, il sortait de la voiture avec un fusil et tirait 2 balles dans les cuisses de la victime pour prévenir toute fuite. Il prenait un bidon d'essence dans le véhicule et aspergeait la victime. Il mettait le feu avec un briquet.
Comment est-il possible, Yael Mellul, je vais commencer par vous, qu'un homme ayant été condamné pour violence conjugale, dont la violence était connue de tous, il y avait une plainte qui avait été déposée contre son bourreau par la victime, le 15 mars dernier. Il venait de sortir de prison. Comment est-il possible qu'il parvienne à cette horreur ?
Alors déjà, avant tout, je voudrais dire à quel point je suis bouleversée par ce féminicide, aussi parce que parce qu'il y a trois enfants de 3, 7 et 11 ans qui ont perdu leur maman dans une ultime scène de violence, d'une cruauté absolument inouïe. Et après avoir manifestement vécu, grandi dans un climat, dans un foyer rempli de violence, ils n'ont jamais vu que cela. Donc je pense aujourd'hui à ces trois enfants qui en plus sont séparés et que nous devons absolument protéger, que nous devons extraire de cette violence dans laquelle ils ont grandi et leur donner une chance de pouvoir rompre cette chaîne de violence transgénérationnelle dans laquelle ils ont été éduqués. Maintenant, vous posez cette question.
Vous avez raison de le rappeler, pardon, parce qu'il y a ceux qui restent.
Absolument,
parce que ces drames,
absolument,
et qu'il faut accompagner.
Il faut les accompagner.
C'est un sujet évidemment important. Mais comment est-ce possible ce que j'ai énuméré.
Oui, mais je me permets d'insister aussi sur les enfants parce qu'il faut bien comprendre que ces enfants-là, après avoir vécu dans ce climat de violence, sont confrontés à un traumatisme qui s'apparente à un traumatisme de guerre, ce qu'ils ont vécu là, ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc c'est extrêmement important de les protéger et de leur donner cette chance de pouvoir s'extraire de cette violence. Maintenant, vous posez une question qui est extrêmement compliquée.
Oui. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre, parce qu'il y a plein de sujets dans ce que je viens d'évoquer. Il y en a d'abord un, Marion Dubreuil, qu'on peut peut-être rappeler, c'est le suivi de ce délinquant, de cet ex-mari qui a été condamné, je le disais, cette fois, alors pour des faits tout à fait différents, mais pour des faits de violence quand même, qui était en prison.
Alors, il avait été condamné, en tout cas, en juin dernier, pour violence conjugale sur cette même victime. Il avait été condamné à 18 mois de prison, un an et demi, dont 9 mois ferme. Il avait effectué...
Il était toujours en sursis, donc.
Il était en sursis probatoire, c'est-à-dire que pendant 2 ans, il faisait l'objet d'un suivi particulier par l'administration pénitentiaire pour s'assurer qu'il respectait des obligations, des mesures, comme l'interdiction d'entrer en contact avec sa victime.
Alors, on peut pas évidemment mettre un policier et un gendarme derrière chaque personne qui est en probation ou qui est en liberté surveillée, on va dire ça comme ça. Mais j'ai quand même deux questions à vous poser, précises. Comment se fait-il qu'à la suite de cette plainte qui a été déposée le 15 mars, il ne s'est rien passé? Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'a fait le juge d'application des peines?
Alors, je n'ai pas toutes les réponses, parce que déjà, il y a deux enquêtes qui ont été diligentées par le gouvernement, justement, pour établir les circonstances. Que l'on sait, déjà, c'est que le 15 mars dernier, quand cette jeune femme dépose plainte contre son mari pour agression, les policiers ouvrent une enquête immédiatement. Ils prennent la mesure de ce que leur rapporte cette jeune femme. En revanche, quand ils vont chercher le suspect à l'adresse qu'il a laissée après sa sortie de détention, ils ne le trouvent pas. Donc, ils recherchent ce suspect. L'un des premiers éléments de défaillance que la procureure de Bordeaux a révélé ce soir, c'est qu'au moment où il est recherché par la police, ce suspect, il va voir à deux reprises son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, qui devrait vraisemblablement ne pas être au courant du fait qu'il était recherché.
Oui, alors il y a plein de questions évidemment, et puis je voudrais qu'on parle plus globalement de ces horreurs de féminicide et de la manière de protéger les femmes victimes de violences de la part de leur conjoint ou de la part d'un homme en général. Anne-Sophie Vallac, vous êtes donc secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Question précise sur des dispositifs qui ont été mis en place il y a quand même peu de temps. Comment se fait-il que ce monsieur n'avait pas un bracelet électronique par exemple, ou comment se fait-il que la femme victime de violence qui avait donc déposé cette main courante, cette plainte le 15 mars dernier, n'ait pas été équipée par exemple d'un téléphone d'alerte?
Alors, je vais avoir du mal à vous donner des réponses dans ce cas particulier, parce que c'est vrai qu'il n'est pas possible de commenter cette affaire dont on n'est rien, et l'enquête est actuellement en cours sur ce qui s'est passé.
Je peux apporter un élément de réponse sur le bracelet anti-rapprochement. Allez-y. C'est qu'au moment où il sort de détention en décembre dernier, le parquet de Bordeaux n'est pas encore équipé de ces bracelets. Donc du coup, il ne peut pas avoir ce bracelet anti-rapprochement qui permet, en fait, en étant équipé le
Donc
conjoint...
Donc si c'était le cas aujourd'hui, il en serait peut-être...
Il aurait peut-être été doté, on ne peut pas l'affirmer.
Une précision, c'est peut-être que ce dispositif qui date de décembre 2019, mais qui est effectif que depuis septembre 2020...
Dans le décret, juridiction et puis
En tout cas, quand le décret d'application de ce nouveau dispositif prévu par la loi a été pris, c'était en septembre 2020 et donc il n'est entré en vigueur que le 25 septembre 2020. Et c'est vrai que ces nouvelles mesures ne peuvent s'appliquer que quand les faits ont été commis après l'entrée en vigueur de la loi.
Françoise Brié, directrice de la Fédération nationale Solidarité des femmes, peut-être Votre réaction à ces manquements quand même apparents, après je ne vais pas vous demander de commenter le dossier également, parce qu'on n'en connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais quand même, ce manquement apparent qui a conduit à ce drame.
Oui, je pense que là, je pense qu'il y a des enquêtes qui vont être diligentées, mais c'est vrai que ce qui me semble important aussi, c'est de vraiment analyser le danger, c'est-à-dire qu'on est face à un agresseur qui est condamné, qui a du sursis, qui ne respecte pas son contrôle judiciaire. Donc c'est vrai que si cette femme avait par exemple bénéficié en sus d'une ordonnance de protection ou d'un téléphone grave danger, elle aurait pu aussi donner l'alerte lorsqu'elle a été agressée une fois dans un supermarché, je crois.
Oui.
Avant d'avoir été tué. Donc, je pense que ce sont aussi des éléments de coordination et de concordance qui manquent, parce que c'est vrai que on voit bien le suivi de cet auteur de violence. La personne qui suit cette personne n'est pas au courant d'une plainte déposée. Enfin voilà, c'est aussi parfois cette coordination entre les différents professionnels qui manque et qui fait défaut. Et là, effectivement, si le bar n'était pas effectivement applicable à cette période, elle aurait peut-être pu bénéficier d'un téléphone grave danger.
Pour l'opinion publique que nous sommes, c'est une situation, Yael Mellul, insupportable. Insupportable. Mais... la société n'est pas en capacité de protéger les femmes, malgré le Grenelle des violences conjugales en France en 2019, malgré cette nouvelle loi votée en 2020, avec la confiscation des armes à feu des maris violents. Ce monsieur, visiblement, avait une arme. Alors, peut-être n'était pas le déclaré, mais il avait une arme. Le traçage numérique du partenaire sanctionné, la fin du secret médical aussi pour les médecins, la mise en place de ce dispositif électronique anti-rapprochement, les téléphones, les places d'hébergement.
La reconnaissance du suicide forcé aussi, c'est important.
Tout ça, sont des choses qui ont été annoncées.
Absolument, mais je veux dire, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est malgré le Grenelle et malgré tout ce qui est fait. Je veux dire, on a affaire là à un problème de civilisation pure, on parle de violence, on parle de la nature humaine. On ne peut pas éradiquer le mal ou la violence grâce au travers d'un Grenelle.
Il y a quand même des pays qui ont réussi en partie à le faire.
Absolument pas possible.
Il y a des pays qui ont en partie réussi à le faire, c'est l'Espagne, on en parlera tout à l'heure.
Oui, on le combat, on essaye d'extraire en amont une femme victime de violence pour qu'effectivement nous n'ayons pas à supporter ce genre de situation absolument dramatique, que ce soit les féminicides ou les suicides forcés. Mais je voudrais quand même revenir sur le cas qui nous intéresse.
Oui.
Même si nous avons très peu d'informations et que je suis toujours très mal à l'aise de parler d'un dossier que je ne connais pas. Seulement, ce que je peux constater, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu plainte en 2015 et en 2020, il y a eu condamnation. D'accord ? Donc on peut dire, au stade de nos connaissances, que la justice a fait son travail jusqu'en 2020.
Oui, mais
en
y a une plainte qui est déposée le 15 condamné. Mars.
Une plainte a été déposée au mois de mars, je ne la connais pas, personne ne la connaît, nous n'en avons pas pris connaissance.
Bien.
D'accord ?
En tout cas, vu l'issue, c'est un échec.
Chaque féminicide est un échec le système.
On marque une première pause, si vous le voulez bien, et on se retrouve juste après la pub. Et on parlera de ce phénomène aussi d'emprise, justement, avant qu'on en arrive à ces tragédies. Comment peut-on déceler ces phénomènes d'emprise et extirper les femmes de cet engrenage infernal? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, la suite du débat du Club des Idées. En fait-on assez contre les féminicides? C'est la grande question qui nous anime donc ce soir jusqu'à 20h après cette abominable tragédie survenue en Gironde avec cette femme de 31 ans, mère de 3 enfants, qui a donc été brûlée vive par son mari dont elle était séparée. On est avec nos invités en studio dans Europe Soir. On va parler évidemment de l'emprise aussi psychologique qu'exercent ces maris violents sur ces femmes. Je voudrais vous faire partager ce témoignage. Elle s'appelle Camille, elle est victime de violences conjugales. C'est Ève Roger qui l'avait interrogée il y a quelques temps. Écoutez.
Quand une femme est battue, elle est sous l'emprise. On est sa chose, on est son objet. C'est lui qui décide quand il a envie, qu'est-ce qu'il veut. On a des bleus, on a des cicatrices, des peintures, on les cache. On a tout un déclic, c'est on veut vivre.
Yael Mellul, c'est un bout de témoignage qui raconte ce qu'est l'emprise de cette violence conjugale. C'est une mécanique qui conduit à ces meurtres. À chaque fois, il y a une emprise, un enfermement qui va crescendo. Un psychologue, je lisais ça tout à l'heure en préparant l'émission, dit « Ces meurtres sont le fruit d'une radicalisation qui s'opère au fil des ans ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
Je suis absolument d'accord avec ça. C'est un véritable, ce que j'appelle aussi un véritable terrorisme qui s'opère dans l'esprit de la victime. C'est-à-dire que chaque territoire du cerveau va être progressivement occupé par cette emprise, justement, qu'opère l'agresseur. Ça va s'effectuer de manière extrêmement progressive, forcément. Parce que
c'est
si,
des petites privations de liberté.
Voilà, c'est-à-dire que
grignotent la liberté.
Ça commence toujours de la même manière, ça commence comme un conte de fées. Toutes les femmes victimes de violences vous diront que qu'au départ, cet individu apparaît comme un prince charmant. Et c'est la raison pour laquelle l'emprise s'installe. Cette période, justement, de séduction participe du système qui est installé, justement, par cet homme-là. Et c'est progressivement que les violences psychologiques vont intervenir. Ça va être des insultes, des humiliations, du dénigrement, de la pression, du harcèlement, du contrôle, de l'isolement. L'isolement est absolument fondamental dans toutes les affaires de violence conjugale. C'est une condition sine qua non, d'ailleurs, pour que l'emprise puisse s'exercer. Il faut absolument extraire la victime de tout contact social pour qu'il n'y ait pas de regard tiers sur la situation. Et on le voit d'ailleurs dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. C'est une femme qui tombe complètement esselée, qui est complètement isolée. Oui. Elle n'a pas même sa famille qui est là, elle n'a personne. Et les témoins aujourd'hui qu'on entend. Et moi, je vais vous dire, c'est ça, quelque part, qui me choque beaucoup. Quand j'entends ces témoins venir apporter leur témoignage aux différents médias et qu'ils disent tous, sans exception, qu'ils savaient que cette femme était battue, ils utilisent ça comme mot, qu'elle était battue.
Oui, mais ils vivaient à l'époque, je me permets d'intervenir parce que du coup, le conjoint ne vivait plus au domicile de cette jeune femme. Il ne partageait plus le même domicile, donc du coup, ce qu'il raconte, c'est avant la plainte, c'est avant la pas la plainte de mars 2015, avant les faits de juin 2020, quand le conjoint a été condamné. Donc, en l'occurrence, il pouvait savoir et le conjoint a été condamné.
Oui, enfin, je veux dire, un homme violent.
Attendez, pas tous en même temps. Vous avez raison, Marion, mais il y a quand même une forme d'aveuglement de la société. La manière aussi d'en parler dans la société illustre une forme d'aveuglement coupable. Pendant longtemps, on parlait, par exemple, de crimes passionnels. On parlait de crimes d'amour. C'est insupportable au regard de ce que sont ces crimes, de parler de crimes passionnels et de crimes d'amour. Anne-Sophie Vallac, vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Vous avez eu à traiter, j'imagine, des cas de violence conjugale.
Oui, tout à fait. Ce sont des mesures qui sont... Des situations qui sont suivies avec attention quand on est juge de l'application des peines. Et la plupart du temps, les personnes ont des suivis qui comportent notamment les interdictions de contact avec certaines personnes, des obligations souvent de soins, des interdictions de paraître dans certains lieux comme l'ancien domicile conjugal. Donc c'est vrai que c'est assez...
Je vous pose la question d'ailleurs, vous étiez juge d'application des peines, il y a une problématique qui revient beaucoup dans le suivi de ces délinquants violents, y compris d'ailleurs dans le suivi des criminels sexuels, c'est un autre type d'affaire, mais tout de même, c'est le manque de moyens pour le suivi de ces dossiers. Et ce qui peut peut-être expliquer aussi les lacunes parfois de la justice qui ne parvient pas à suivre ces personnes qui sont suivies pour des faits de violence et de protéger ces femmes.
Effectivement.
Quand on fait le comparatif avec l'Allemagne, par exemple, en proportion du nombre d'habitants, je crois qu'on a un nombre de juges d'application des peines chez nous en France qui est sans commune mesure avec ce que sont les Allemands et vous n'arrivez pas à suivre tous les dossiers.
Alors, effectivement, il y a les chiffres de la Commission européenne qui nous disent qu'en France, il y a 11 juges pour 100 000 habitants, quand en tout cas la moyenne européenne est à 21, il me semble. Donc, on est dans une situation où il y a moins de juges pour 100 000 habitants que dans les autres pays de l'Europe. Et effectivement, ça impacte le suivi des personnes. Quand il y a des difficultés de transmission d'informations, de circuits qui fonctionnent mal, c'est aussi parfois en raison de la surcharge de travail qu'il peut y avoir dans les services qui font qu'on n'a pas forcément le temps et l'attention nécessaire à porter à chaque dossier dans ce cas-là.
Françoise Brier, directrice de la Fédération nationale Solidarité des femmes, sur cette question de l'aveuglement de la société et puis aussi du phénomène d'emprise. Ça fait maintenant entre 10 et 20 ans qu'on en parle assez sérieusement de ces histoires de violence conjugale et de féminicide. On a mis un mot, après je sais que ce mot fait débat, mais ça existe, et que les chiffres sont à peu près les mêmes. Comment vous l'expliquez ça ?
Je pense que déjà, effectivement, ça a été dit, on est dans une société qui est très inégalitaire, avec traversée par des stéréotypes sexistes. C'était aussi la base de la lutte contre les violences, c'est aussi la prévention, comment on travaille avec les très jeunes, sur les relations, sur le respect de l'autre, sur les droits des femmes. Et c'est aussi par ces actions de prévention, et je crois que la Convention d'Istanbul le rappelle bien, on associe à la fois la prévention des violences, la protection, aussi la répression des auteurs, et aussi la coordination entre les différents acteurs. Donc cette question de prévention, elle est aussi centrale, que ce soit, mais aussi pour tout public. Et je voudrais revenir sur la question de l'emprise, parce que c'est la question aussi de la stratégie de l'agresseur. C'est-à-dire qu'il faut absolument arriver à décrypter cette stratégie. Pourquoi les femmes restent sous emprise? C'est parce que l'agresseur, lui, continue à les harceler, les épuise juridiquement, va utiliser les enfants aussi. Comment une femme peut s'éloigner lorsqu'elle a des enfants et qu'elle doit donner son adresse parce qu'elle a des enfants.
Oui, c'est obligatoire. Françoise Brier,
donc,
aussi
c'est des éléments importants qu'il faut encore faire évoluer.
Et aussi une forme de culpabilité aussi chez ces femmes.
Oui, tout à fait, mais c'est ce que leur renvoie sans arrêt l'agresseur. Oui. C'est-à-dire qu'on parle d'emprise psychologique des femmes, mais reprenons l'emprise du côté, justement, de cette stratégie de l'agresseur. Quand les femmes sont, justement, dans l'incapacité de s'éloigner parce qu'elles ont des enfants, elles restent sous le contrôle de cet agresseur. Donc, il faut encore faire évoluer les lois. Et surtout, il faut reprendre, justement, tous les éléments que lui va mettre en place pour poursuivre ses agressions et pourquoi les femmes sont épuisées, finalement, psychiquement, physiquement, et pourquoi, parfois, elles n'arrivent même plus à déposer plainte en disant finalement ça sert à rien parce que de toute façon il sera toujours là, il va toujours me chercher. Et c'est à nous finalement aussi pour ces femmes de proposer des services. Et c'est vrai que pour cette femme isolée, elle n'a pas peut-être été accompagnée non plus par une structure spécialisée, par des professionnels bien aguerris sur sa situation, qui auraient peut-être permis aussi quelque part avec les moyens bien sûr nécessaires d'éviter ce drame avec cet agresseur dont on sait qu'il était extrêmement déterminé.
Il y a quelque chose, Yael Mellul, aussi de symptomatique dans cette histoire, c'est que l'un des éléments déclencheurs pour amener la mort, c'est le divorce.
Absolument.
C'est la séparation.
Absolument.
C'est le moment du passage à l'acte. Je voyais une récente étude qui montre que cette séparation, dans plus de 70% des cas, explique le passage à l'acte avec les féminicides.
L'écrasante majorité des féminicides et des suicides forcés aussi, donc. Toutes les femmes qui se suicident ensuite des violences qu'elles ont subies interviennent précisément dans cette période post-séparation. Et ça s'explique de manière extrêmement simple. D'ailleurs, à double titre, c'est qu'une femme, quand elle quitte le domicile conjugal, ou quand elle se sépare de l'homme violent, elle est libérée effectivement physiquement. Mais elle n'est pas encore libérée mentalement et encore moins libre. Elle est encore sous emprise de son conjoint violent. Puisqu'en plus, son conjoint violent, c'est précisément à ce moment-là où il va exercer une violence des plus extrêmes parce qu'il va se sentir dépossédé de son objet. Et d'ailleurs, là, au cours de la conférence de presse de Madame le procureur de Bordeaux, dans cette affaire-là, manifestement, l'agresseur présumé a indiqué qu'il était venu pour la punir. C'est exactement ça. Je veux dire, ces agresseurs-là, pendant la période post-séparation, ils veulent punir leur femme, leur objet, leur possession, de vouloir exister sans eux. Et c'est donc précisément à cette période-là où il faut une surprotection des femmes. Je crois, mais c'est très important, mesure pas
assez. Vous avez raison de le souligner. Je voudrais qu'on écoute le procureur de la République, justement, à ce propos très précis.
Convaincu, selon ses dires, que son épouse avait un amant et qu'elle le manipulait, il aurait décidé de la punir des souffrances endurées, selon ses propos, mais sans souhaiter la tuer.
Voilà, c'est Frédéric Portery, la procureure de la République de Bordeaux, qui s'exprimait sur cet atroce féminicide. Je vais utiliser une expression qui est abominable, mais c'est ce que vous définissez. En somme, ce sont des crimes de propriété.
Absolument, absolument. En réalité, un féminicide, ce n'est pas autre chose qu'une scène de violence ultime parmi tant d'autres. Et j'ai le souvenir d'une enquête qui est absolument exceptionnelle qu'ont fait les journalistes du Monde l'année dernière, où ils ont étudié une centaine de dossiers de féminicide pour comprendre où avait été commis, justement, où il y avait eu des dysfonctionnements. Parce que il faut le dire, il faut le répéter, chaque féminicide relève d'un dysfonctionnement, mais de tout le système. Et quand je parle du système, je parle de nous tous, quelque part.
D'ailleurs, il y a un élément qu'on apprenait aussi dans cette enquête, c'est que ça touche tous les milieux socio-professionnels.
Absolument. Oui.
Ouais. Absolument. Tous les milieux, il y a de la violence conjugale. Mais
justement, pour reprendre cette enquête que vous évoquez, Madame Mellul, ils avaient repris tous les féminicides de 2019, donc de l'année du Grenelle. Et parmi ces féminicides, on peut en citer deux ce soir. Il y a celui de Nathalie Debailly, qui a été tuée, kidnappée par son ex-conjoint avec trois complices et qui a été assassinée au domicile de son ex-conjoint. Sa famille a déposé plainte contre l'État pour défaillance parce qu'elle avait déposé plainte à plusieurs reprises sans réponse de l'État et des services de police. Il y a aussi Julie Douib, celle qui a initié, on va dire, le Grenelle des violences faites aux femmes. Elle a été assassinée par balle par son ex-conjoint sur l'île Rousse en Corse. Oui. Et son procès, enfin le procès de son meurtrier doit avoir lieu en juin prochain.
Il y a un juste terrifiant, Marion Dubreuil, 80% des plaintes sont classées sans suite. 80% des plaintes sont classées sans suite. Peut-être un mot de commentaire là-dessus, parce que là, ça n'est pas simplement la justice, c'est aussi la prise d'information de la gendarmerie, de la police. On parle beaucoup de la formation aussi, de ceux qui reçoivent ces femmes et ces plaintes, et puis des enquêtes qui s'en suivent. Comment expliquer, Anne-Sophie Vallac, vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, que ces plaintes n'aboutissent pas ?
Écoutez, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer. Il y a effectivement, quand même, je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure sur le processus de l'emprise, qui font que les femmes vont quand même déjà rarement déposer plainte, et quand elles déposent plainte, c'est effectivement pas forcément en amenant... l'intégralité des éléments, mais c'est évidemment pas du tout pour faire un proche, mais c'est pour expliquer la difficulté à exploiter forcément ces plaintes et qui nécessite du coup par ailleurs une formation spécifique à ce propos.
Mais les chiffres sont là quand même. 41% des cas de féminicide, un signalement avait eu lieu pour violence auprès de la police et de la justice.
Oui, mais je évidemment que c'est tout à fait inadmissible quand on sait qu'il y a eu une saisine. Oui, bien sûr. Il y a des dysfonctionnements.
C'est la prise d'information de la parole et puis l'enquête qui s'ensuit et la protection de la personne.
On admet évidemment, enfin, il est évident que ce dysfonctionnement, il ne peut pas être nié. Après, c'est par rapport à la façon d'identifier où est-ce qu'il se situe. C'est là où, évidemment, je ne suis pas en mesure de vous répondre précisément. Maintenant, dans ce qui a été dit sur l'emprise, c'est aussi que, et c'est ce qu'on a reproché au Grenelle des violences conjugales, c'est que les mesures qui ont été prises derrière n'insistaient pas assez sur la prévention et ne mettaient pas assez de moyens non plus sur tout ce qui peut être fait à ce niveau-là. Et si vous voulez, tout à l'heure, vous parliez des ordonnances de protection. Donc ça, c'est la voie civile que des femmes des personnes victimes de violences auxquelles elles peuvent avoir recours surtout pour obtenir un éloignement du conjoint violent. Et si vous voulez, si on n'a pas derrière de structure d'hébergement, tant pour les femmes avec leurs enfants qui se retrouvent avec des difficultés financières, etc., qu'on a évoquées.
Ça, c'est même un autre scandale. Hein. Pour les femmes qui sont obligées de partir et pas les mariés.
Mais aussi pour les maris, en Seine-Saint-Denis, il y a une expérimentation justement pour faire l'inverse, pour qu'elles puissent garder leur domicile familial avec leurs enfants, parce que souvent les enfants sont scolarisés en plus dans l'environnement proche. Et la Seine-Saint-Denis expérimente en ce moment ce dispositif pour permettre aux femmes de garder leur domicile.
Alors je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, je vous laisse terminer après. Je voudrais revenir un peu en arrière pour vous montrer quand même l'évolution aussi de la conscience politique vis-à-vis de ce... Et puis l'incapacité à apporter des réponses. 1992, à l'époque, la secrétaire d'État aux droits de la femme dit ceci.
Beaucoup de femmes qui subissent la violence n'osent pas en parler. Et la création de cette permanence téléphonique nationale, c'est justement pour leur dire, il faut en parler. Appelez tout de suite pour justement comprendre que d'abord vous n'êtes pas coupable et qu'il y a des précautions à prendre tout de suite.
Voilà, c'est pas il y a 50 ans, hein, c'était en 92. 2012, François Hollande.
Les policiers, les gendarmes, les magistrats, les médecins, les enseignants auront des formations spécifiques pour pouvoir accompagner les femmes qui sont victimes de violences. Enfin, nous devons loger, c'est-à-dire accueillir des femmes qui ne trouvent pas les lieux d'accueil. Donc il y aura des programmes spécifiques pour des logements adaptés pour les femmes victimes de violences.
3 septembre 2019, ouverture du Grenelle des violences conjugales, Marlène Schiappa.
Vous savez, en matière de violence conjugale, ce qu'on observe en France, c'est qu'on a beaucoup de lois, mais qui sont assez peu appliquées. Donc la loi existe, maintenant la loi doit être appliquée. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer pour faire en sorte qu'on travaille moins chacun de son côté. Et surtout qu'on prenne plus au sérieux les femmes victimes de violences conjugales. Parce que beaucoup tirent la sonnette d'alarme, mais elles ne sont pas assez prises au sérieux quand elles le font. C'est aussi ça, un de nos enjeux.
Et puis dernier extrait parmi tant d'autres. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, le 28 août 2020.
Il y a forcément sur le chemin des femmes qui vont subir l'emprise de leur compagnon ou de leur famille, qui ne vont pas réussir à aller pousser la porte de la gendarmerie ou du commissariat parce que c'est compliqué. Là, on évite toute cette fuite de patientes.
Voilà, c'est la visite d'Éric Dupond-Moretti. Il était présent lors de cet échange, mais c'est Claire Dreyfus, la sage-femme référente, qui prend la parole à ce moment-là.
C'est pas tout à fait la même voix.
C'est pas tout à fait la même voix. C'est vrai qu'en plus, Éric Dupond-Moretti a une voix reconnaissable parmi mille. Yann Mehul, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'on vient d'entendre?
Déjà, il faut quand même noter qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits malgré tout. Il ne faut pas perdre de vue quand même qu'il y a des policiers et des gendarmes qui font un travail absolument extraordinaire. J'ai la chance de pouvoir collaborer avec le Centre National de Formation de la Police Judiciaire, où des formations de très grande qualité sont faites pour ce qui concerne toutes les violences intrafamiliales. Donc il ne faut pas non plus présenter le tableau de manière totalement noire, parce que des choses extrêmement fortes sont faites. Des hommes violents sont condamnés. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Il n'en demeure pas moins que chaque féminicide, et je le répète, relève très clairement d'un dysfonctionnement du système.
Ce chiffre, et je reviens, qui meurt
tous les deux jours et demi. Et vous rajoutez à ça, et j'insiste, toutes les femmes qui se suicident ensuite des violences qu'elles ont subies, qui ont été estimées pour l'année 2018 à 217. Alors, j'en reviens juste, je termine parce que c'est important, sur l'enquête qui a été faite par Le Monde. Parce que c'est très important, parce qu'il y a déjà des études qui ont été faites sur des dossiers pour révéler des dysfonctionnements. Et la conclusion a été la suivante. C'est que dans la majorité des cas, effectivement, les femmes avaient déjà porté plainte. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand une femme, elle va déposer plainte pour une scène de violence physique?
Oui.
Eh bien, cela va être uniquement cette scène de violence physique qui va être prise en compte. Et ça, c'est le réel problème. Oui. Parce que cette scène de violence physique,
et pas l'intégrité elle raconte de la situation.
Elle raconte une histoire.
Alors, attendez,
il y a une vie derrière de souffrance qu'il faut écouter.
Il nous reste c'est très intéressant. Il nous reste quelques secondes et je voulais simplement vous faire partager le modèle espagnol dont on parle beaucoup. L'Espagne qui a réussi à faire baisser le nombre de féminicides de façon très très notable en seulement quelques temps. Je voudrais que vous écoutiez cette femme qui est équipée de ce système qui est réservé aux femmes battues. C'est un bouton d'alerte pour prévenir la police.
On m'a donné un GPS parce que j'ai peur. Je sais qu'il est agressif. Si je vois qu'il s'approche, j'appuie sur un bouton et la police arrive. C'est toujours ce que je range en premier dans mon sac à main.
C'est ça la solution, Marion Dubreuil ?
C'est une solution qui est en tout cas expérimentée par plusieurs parquets en France avec des dispositifs différents. C'est un dispositif qui n'est pas forcément adossé à une procédure pénale et c'est peut-être ça la nouveauté. C'est finalement de pouvoir accompagner ces femmes, les protéger en dehors d'un dépôt de plainte quand elles sont suivies par des associations et qu'elles appellent à l'aide.
Anne-Sophie Valac, c'est une bonne issue pour protéger les femmes quand on est dans une situation d'urgence?
Écoutez, je crois qu'en tout cas c'est une mesure qui rassure fortement les victimes ou les personnes qui sont allées déposer plainte. Après, c'est vrai que pour porter une appréciation sur le dispositif, on aurait aimé attendre la fin des expérimentations qui ont été menées et qu'en l'état, c'est difficile de la porter.
En
sur tout ce qui a été fait en Espagne. Oui, alors c'est vrai qu'en Espagne, ça a visiblement fonctionné, mais il me semble que c'était adossé à tout un dispositif de prévention justement des violences conjugales et un budget très très conséquent d'1 milliard d'euros. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas en France.
Bien. Françoise Brier, un tout dernier mot, il nous reste quelques secondes. C'est une bonne solution, ce bouton d'alerte?
C'est une bonne solution et je crois qu'aussi en Espagne, on a des plateformes de suivi et d'évaluation du danger où tous les professionnels qui notent des éléments sur une situation vont pouvoir rapporter ces éléments. Et il y a aussi des policiers référents pour chaque victime en grave danger. Et ce sont eux qui vont centraliser les éléments et justement faire la synthèse des différents éléments qui peuvent amener à penser qu'il y a un vrai danger autour d'une situation. Et je pense que quand on parle de policiers spécialisés et de structures spécialisées, c'est ça peut-être aussi qu'il faudra, en tous les cas, ça existe en France, mais en tous les cas, aller encore vers un approfondissement de ces mesures.
Bien, c'est un sujet nécessaire, un débat nécessaire. On est très fiers de le porter parce qu'il faut que les choses avancent. Merci infiniment d'avoir été ce soir avec nous dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53, la suite du Club des idées. On va remonter un peu le temps, comme chaque soir, avec les archives, le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Europe 1.
Bonsoir Jean-Sébastien Saldini.
Bonsoir.
Merci de nous avoir retrouvés. Alors ce soir, vous revenez sur la date du 5 mai 1976. Hasard des choses, la une de Corse Matin, aujourd'hui, nous raconte que le FLNC est en train de revenir dans la bataille en Corse. Eh bien, le 5 mai 1976, c'est le jour de la création en Corse du FLNC.
Ce 5 mai, une petite musique qui jusque-là animait les soirées de militants radicaux est traduite dans les faits. Ce sont les paroles détournées d'une chanson bien connue en Corse. Kifa, tu vois la plastica, que faire? Il faut plastiquer. 22 attentats en une nuit secouent différentes villes de Corse ainsi qu'à Nice et à Marseille. Même les figures autonomistes de l'époque comme Max Simeoni semblent débordées par ces attentats.
En principe, je les trouve inopportuns et contraires un peu à la stratégie, la tactique adoptée par tout le monde. Je suis surpris et un peu désagréablement surpris, voilà.
Dans le même temps, 20 000 tracts laissés sur les lieux pour certains annoncent la création du FLNC. Le préfet de Corse de l'époque, Jean Riolacci, lui, minimise.
En fait, il y a eu une juxtaposition de mini-incidents. Il faut quand même les réduire à leur proportion. De là à donner à cette nuit bleue, comme on dit, la dimension qu'on est en train de lui donner, je trouve que c'est excessif. Il y a au moins ceci de clair. C'est que communiqué du fameux Front de Libération Nationale, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, jette le masque. Cette fois-ci, il n'est plus question d'identité, d'autonomie, il est bel et bien question de séparatisme.
Alors Jean-Sébastien, rappelons que cette série d'attentats intervient évidemment dans un contexte très particulier.
Oui, les suites de ce qu'il est convenu d'appeler pudiquement les événements d'Aléria, l'occupation d'une cave viticole par des militants qui se termine par la mort de deux gendarmes, l'acte fondateur du nationalisme corse. Et en mai 76, l'un des principaux auteurs est sur le point d'être jugé, Edmond Simeoni, le père de l'actuel président de la région Corse. Son procès devient une caisse de résonance des revendications nationalistes. Le compte-rendu d'audience signé Alexandre Fronti pour Europe 1 donne la symbolique. Ce qui se joue, c'est le pouvoir central face aux autonomistes.
Simeoni, des feuilles à la main, la voix forte, heurtée. Simeoni, toujours sûr de lui, essayant d'expliquer au juge ce qu'est la Corse. La Corse qui n'a pas un patois, monsieur, mais une langue. Non un folklore, mais une culture. Non une historiette, mais une histoire. La Corse, victime de l'injustice qui pâtit d'une situation coloniale. Et Simeoni de lancer, messieurs, lorsque la justice est défaillante, nous la faisons nous-mêmes, souvent très mal.
Alors, dans les semaines qui ont suivi, les actions du FLNC sont devenues régulières et de plus en plus violentes.
Les tirs de roquettes ou à l'aide de lance-grenades ciblent des casernes de gendarmerie, des trésoreries, des bâtiments des PTT, une tentative d'assassinat sur un général de l'armée, mais le gouvernement de l'époque ne semble pas prendre la mesure. Pas même le plus corse des ministres de l'époque, Alexandre Sanguinetti, qui se borne à ridiculiser les militants.
Comment voulez-vous que de pauvres types qui n'auraient aucun espoir d'être chef de bureau des douanes en France n'aient pas envie d'être ambassadeur à l'ONU? Les Corses qui acceptent par lâcheté, il n'y a pas d'autre mot, qu'une poignée d'aventuriers et d'imbéciles, dont la plupart sont des fils de Sardes et des fils de Napolitains, leur imposent leur comportement, n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes.
Derrière la saillie, Alexandre Sanguinetti restait tout de même lucide. Si nous ne prenons pas garde à ce mouvement, ce genre d'action va se développer, dit-il, et pour cause. En 45 ans, le FLNC et ses différentes branches ont commis près de 5000 attentats revendiqués. Et une nouvelle composante s'est manifestée, pas plus tard qu'hier, vous l'avez dit, Julien.
Affaire à suivre. Merci Jean-Sébastien pour ce récit et ses archives. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, dans un instant, le rappel de l'info. Romane Hoquet et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Est-elle là, Émilie?
Bah oui, elle est là, Julien, toujours là, fidèle au poste.
Bien sûr, bien sûr. Quel est le programme ce soir?
Alors ce soir, c'est un chanteur, auteur-compositeur français, mais qui chante en anglais, qui a un groove incroyable et qui vient présenter son premier album solo. Il s'appelle Victor Solf. Vous voyez, quand on aura le droit de redanser avec des gens, typiquement Victor Solf, ça peut se mettre dans une playlist.
Pas mal, carrément même. Merci.
Merci beaucoup, Julien.
Émilie. Merci, Émilie. On te retrouve dans quelques secondes. On sera au rendez-vous. Romain Oquet pour le rappel de l'info dans quelques secondes. Merci de votre fidélité. Demain, ce même micro pour le 18-20. Isabelle Millet, à lundi.